en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Cette émission est une rediffusion. Bonjour, bonsoir. Il a illustré Apollinaire et Baudelaire, travaillé avec Alain Chabat sur les costumes de son film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Mais son héros le plus célèbre, c'est un androïde cyberpunk amoureux, bâti comme un culturiste et doté d'un organe érectile à faire pâlir d'envie un acteur de film X. Rank Xerox, Ranks pour les intimes, n'est qu'une, une seulement des créatures du dessinateur légendaire que nous recevons aujourd'hui. C'est écrit sur la quatrième de couverture de son recueil Petite Mort, paru chez Glénat. Cet artiste italien est, je cite, un peintre baroque du sexe et de la mort, un architecte de la transgression, un poète de la déviance, un sculpteur de la perversité. On ne saurait mieux dire, et voilà que le public avertit. Tanino Liberator est avec nous à l'occasion de l'exposition que lui consacre la galerie Barbier et Maton dans sa ville d'adoption Paris. Elle réunit une cinquantaine de dessins qui permettent de redécouvrir la force de son trait, l'énergie électrique incroyable qui se dégage de ses portraits et de ses nus féminins ou masculins. Exposition qui ouvre au public vendredi prochain, 17 mai, c'est jusqu'au 15 juin, et vous m'en direz des nouvelles.
Plus rien à dire. Là.
Bonjour Tanino Liberator. Aussi, on a plein de choses à raconter depuis jusqu'à la fin de l'émission, rassurez-vous. Merci beaucoup d'être avec nous.
Et bonjour à vous.
Pour accompagner cette exposition, Barbier et Maton publient un ouvrage qui réunit quelques 180 dessins inédits. Et c'est Zep. Alors Zep, c'est le père de Titeuf, c'est-à-dire une série qui, a priori, semble vraiment aux antipodes de votre univers à vous, qui signe un petit texte d'hommage au début et qui écrit ceci. Liberator est la réincarnation de Michel-Ange version punk. Vous n'avez pas la grosse tête, heureusement.
J'ai un gros nez, mais pas la grosse tête.
Mais est-ce que vous acceptez la filiation? Est-ce que vous êtes l'un des lointains descendants de Michel-Ange?
Bon, ça c'est sûr, je suis un italien, mais bon, c'est pas ça, c'est que je veux dire que Michel-Ange, il est rentré dans moi, toute seule, mais à la fin, ils ont sorti les autres, parce que la première qui a dit quelque chose au Michel, c'était Frank Zappa. Et je dois reconnaître que sans le faire exprès, mais vu que j'étais vraiment frappé quand j'étais petit, dans les œuvres de Michel-Ange, c'est quelque chose que je me suis porté dedans tout le temps, et dans mon petit, mais vraiment dans mon petit, quelque chose j'ai pris de lui, ça c'est sûr.
C'est-à-dire
mais
que votre formation artistique, est quand même très marqué par la statuaire de la Renaissance.
Exactement, et par Michel-Ange en particulier. Maintenant, un peu plus, moins qu'avant, mais au début, vraiment, j'étais vraiment frappé par ça. Tout a commencé vraiment avec la sortie sur la télé de la vie de Michel-Ange, dans laquelle il y avait Jean-Marie Volonté comme acteur. Et je me rappelle, j'avais 10 ans, une chose comme ça, et je me rappelle qu'à la fin de chaque épisode, je volais dans ma chambre à dessiner les damnés, les choses qu'est-ce qui m'était resté dans la tête.
Mais alors justement, qu'est-ce qui vous avait frappé?
Force et la dramaticité de ces personnages, le corps humain que j'ai toujours adoré, qui a été utilisé comme façon expressive, pas seulement comme une chose baroque, justement, parce que dans Michel-Ange, il n'y a rien de baroque, c'est les autres qui l'ont fait devenir comme ça, mais lui, le corps humain, même s'il connaissait l'anatomie d'une façon exceptionnelle, il l'utilisait pour ses expressivités. Chose que j'ai fait sans le savoir, sans me rendre compte, moi aussi, dans mes dessins, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que je suis un grand connaisseur d'anatomie, mais c'est vrai aussi que moi, si j'ai besoin d'un muscle en plus, je le mets, j'ai rien à foutre si c'est vrai ou non.
Voilà, la réalité, c'est pas forcément ce qui vous soucie quand il s'agit de corps humain. Alors justement, Michel-Ange, il est allé à l'hôpital San Spirito à Florence, il est allé étudier l'anatomie, le corps humain. Vous aussi, vous avez fait ce genre de choses?
Ben, pas dans les hôpitaux, mais je l'ai fait sur les bouquins, ça c'est sûr. J'ai fait pendant l'école. Pendant l'école, il y avait justement une matière qui s'appelait anatomie artistique. Et moi, j'ai fait le dessin pour toute ma classe pendant 2 ans. Alors, même si le professeur, il le savait, il a laissé faire quand même. Et quand je me suis j'aimais bien, c'est pour ça.
Oui, mais vous aimez bien, mais vous le disiez à l'instant, Tanino Liberator, rajouter un petit muscle si le besoin s'en fait sentir, c'est pas très très grave. Mais il y a quand même aussi dans vos dessins un souci de réalisme, en ce sens que l'exactitude de la courbe d'un sein, du gap d'une cuisse, ce genre de vérité-là doit passer aussi par votre trait.
Oui, mais je crois qu'à la fin, j'ai un analyse mieux. Les dessins, c'est pas vraiment les aptitudes de l'anatomie ou les aptitudes du corps et de la chose que j'ai à présent. Quand l'émotion Oh, la situation que je suis en train de représenter, c'est ça qui m'intéresse comme un impact qui doit être vraiment réaliste, qui doit donner de la force ou de l'impression. Le corps, ça fait partie de l'enjeu.
Alors, vous vous servez pour atteindre justement cette émotion de modèles vivants, de photos, de personnes réelles, ou bien tout ça sort réellement de votre imagination?
Non, il sort, c'est tout, toutes les choses que vous avez dit, c'est vrai, parce que je le vois, je le regarde, mais au moment de dessiner, le 90% de mes dessins, ils sortent de ma tête, après que j'ai digéré qu'est-ce que j'ai vu le jour avant, ou les années avant.
Mais alors, comment est-ce que vous procédez concrètement? Décrivez-nous, lorsque vous dessinez un corps, par exemple, vous commencez par quel détail? Vous faites un plan d'ensemble, croquis général, ou vous commencez précisément par un endroit?
Ouais, je commence avec un endroit, mais après je le suis pas parce que c'est sûrement le raté. Mais
l'endroit de départ est toujours le même ou pas du tout?
Non, oui. Quand je dessine un corps humain, je pars toujours dans la tête et de conséquence, je pars du nez qui après sera pas du tout celui-là final. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que je sais jamais vraiment qu'est-ce que ça va devenir. Et je sens que les dessins, ça va arriver au moment que je commence à gommer beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup la gomme, au contraire des autres, mon confrère à moi, qui l'utilise pas du tout.
Mais vous utilisez la gomme pour remettre par-dessus un autre trait, ou bien, parce que vous faites énormément de traits qu'ensuite vous épurez?
Oui, c'est ça. J'utilise la gomme pour enlever qu'est-ce que j'ai fait, pour dessiner avec la gomme, en effet. Au moment que je salis tout le papier, j'ai besoin de la gomme pour faire sortir tout le reste. Mais c'est pas une méthode. En effet, je suis pas un bon professeur parce que je sais pas expliquer aux autres comment je travaille. Parce que c'est vraiment beaucoup de tripes. Alors, j'ai pas une méthode, une façon structurelle que je suive. Je me laisse aller, comme d'habitude, et après, au moment que je trouve quelque chose, j'y vais.
Oui, alors justement, c'est intéressant que vous parliez de quelque chose de tripal, parce qu'on vous imagine, mais peut-être que c'est pas du tout la réalité, mais il va falloir que vous nous le confirmiez ou pas, on vous imagine avec des traits rageurs, des traits extrêmement dynamiques, on vous imagine presque dessiner debout, assis, courir, enfin, sauter autour de la table. Comment ça se passe dans l'atelier de Tanino Liberator?
C'est un peu plus simple que ça, c'est différent. Maintenant, c'est un peu ça, dans le sens que c'est... D'accord, j'ai commencé à faire des grands dessins et recommencer à travailler debout, c'est un peu, je cherche le trait qui exprime quelque chose plus qu'il représente quelque chose. Au contraire d'avant, que c'était dans la représentation de quelques situations, de quelque chose, dans la BD, pratiquement, on dessine pour représenter une histoire, pour parler d'une histoire, c'est différent de ce que je fais maintenant.
Donc dans l'illustration notamment. Donc ça veut dire que dans l'illustration, la force qui se dégage du dessin passe par la force du trait, par le geste.
Ouais, je crois, la façon dans laquelle on le met sur papier aussi, ça se sent, se voit. Et c'est quelque chose de très animal, parce que c'est difficile à expliquer, mais les gens le ressentent. Parce qu'on est quand même des animaux, et ça, je vois que les gens, ils ont des réactions par rapport à ça.
Alors, on sent très bien dans les dessins exposés à la galerie Barbier et Maton, qu'on va donc pouvoir découvrir à partir de vendredi, mais on sent aussi très bien dans les résultats finaux, aussi bien d'ailleurs dans les illustrations que dans les albums de BD, cette énergie que l'on évoquait. À côté de l'énergie, est-ce qu'il y a chez vous, dans votre dessin, une recherche de l'esthétique, une recherche de la beauté, ou peut-être, dans certains cas, sait-on jamais, une recherche de la laideur?
Non, je recherche... Ça, c'est un peu difficile à répondre, parce que ça dépend qu'est-ce que c'est la beauté, première chose. Moi, la beauté, c'est le dessin, pas pour qu'est-ce que je représente. Alors, un dessin qui représente une chose laide, mais sorti comme il faut, c'est un beau dessin, un très beau dessin. Alors, si j'arrive à obtenir qu'est-ce que j'ai envie, moi, le sentiment que j'ai envie de représenter, parce que c'est pas vraiment une question de figure, c'est, tu peux représenter la même image, mais chaque fois d'une façon différente, parce que chaque fois c'est dans une situation, dans une émotion différente.
C'est-à-dire que le corps montre l'état d'âme du personnage.
C'est qu'est-ce que j'essaie toujours de faire, parce que, en effet, c'est la seule façon pour aller en avant, parce que sinon tu fais toujours le même dessin qui a aucun expression, qui c'est un beau dessin, mais un beau dessin, ça sert à rien.
Mais alors justement, vous utilisez beaucoup la gomme, c'est ce que vous nous expliquiez à l'instant. À quel moment vous vous dites, ça y est, c'est bon, c'est parfait, j'arrête tout, on ne change plus rien?
Ah non, j'arrête jamais.
Non,
quand je fais les croquis, la gomme, c'est au moment de la création.
Bien sûr.
Disons que je dis que le dessin commence à sortir au moment que je commence à utiliser de plus en plus la gomme, parce que je sais que j'ai quelque chose que j'ai trouvé et que je dois cerner et qui doit mettre en place. Mais c'est vraiment difficile à expliquer, c'est vraiment une démarche à moi qui c'est pas commun à les autres. Chacun a vraiment sa façon de faire par rapport au papier blanc et à la toile. Et c'est normal et c'est bien comme ça, hein.
Mais alors, on sent effectivement la passion, hein, qui est vraiment très communicative depuis le début de cette émission. Est-ce que vous avez autant de passion, est-ce que vous avez autant de plaisir à dessiner? Est-ce que il y a de la souffrance dans votre dessin, ou est-ce qu'il y a de l'extase, de la jouissance?
Bon, la jouissance, c'est rare. Sincèrement, et quand ça arrive, c'est vraiment super, hein. C'est mieux que faire l'amour. Mais bon, ça arrive très rarement. Et il y a surtout de la souffrance, mais pas de la souffrance physique, c'est de la souffrance de pas arriver à faire exactement qu'est-ce que tu veux, parce que tu sais pas qu'est-ce que tu veux, c'est ça la chose primordiale. Moi, je parle de ici, je parle toujours d'un handicap que je sais jamais qu'est-ce que je vais faire. Et alors, pour trouver ça, c'est ça qui c'est exténuant. Mais à la fin, quand ça arrive, sincèrement, c'est une des meilleurs moments de plaisir.
Cette émission est une rediffusion. Robert Wyatt dans VMDN sur RFI en 1974, extrait de l'album Rock Bottom. Voilà, ouais. Que vous connaissez par cœur ou presque. Tadino ouais. Libérateur, c'est un de vos albums de musique préférée. C'est parce que c'est un album un peu barré, c'est pour ça que vous étiez fan de Robert Wyatt.
Mon album préféré, c'est mon auteur préféré, mon chanteur préféré. Et lui, c'est un des albums. L'album de Robert Wyatt que je préfère en absolu, c'est un album des premiers trois albums de Soft Machine, qui sont pas mal, mais surtout les deux albums de Matching Mall. Ça, j'adore vraiment. Et après, il y a eu d'autres choses, mais lui, il a fait toujours qu'est-ce que j'aurais aimé faire de la musique. Tu sais, le mélange de tout et sortir ma musique.
Ouais. Et cette chanson-là vous a inspiré une histoire courte qui s'appelle Folly Bololi. Ouais. C'est parti de deux, trois lignes, en fait, de paroles, hein, qu'on a entendues.
Que ça veut dire.
Voilà. Ça, 1979, hein, cette petite BD qu'on peut découvrir dans ce recueil que Glénat a publié il y a quelque temps qui s'appelle Petite mort et autres fragments, ouais, du chaos. Et c'est vrai que la musique a toujours joué un rôle très important dans votre création. D'ailleurs, vous avez commencé en dessinant des pochettes de vinyle.
Oui, exactement. Ça a été mon premier travail, le travail avec lequel je suis devenu indépendant de mon père. Et ça a été toujours comme un hasard. Je me suis retrouvé à faire ça comme ça.
Pour le label RCA en,
RCA en Italie. Bon, disons qu'à cette époque, c'était du travail vraiment de comment on dit, pour manger, là. Parce que c'était vraiment, des fois, on m'appelait le matin pour donner une pochette l'après-midi ou le matin d'après. C'était un peu comme ça. Mais ça a été bien parce qu'il m'a formé pour faire des choses, pour avoir une approche envers les choses qui avant j'avais pas.
Oui, mais encore aujourd'hui, vous continuez puisque je crois qu'il y a un disque qui sera présenté d'ailleurs dans le cadre de cette exposition à la galerie Barbier et Maton.
Non,
vous...
pas Barbier et Maton, justement. Ah bon. Alors, il va être présenté
Au
point éphémère.
Voilà, c'est là où se trouve votre atelier, hein.
C'est là que j'ai trouvé mon lieu. C'est éphémère comme ça, mais parce que ça fait quand même beaucoup d'années que je suis là-bas. Et je dois.
Oui, c'est un éphémère qui commence à devenir permanent.
Je me trouve très très bien, je dois dire. J'ai connu beaucoup de monde qui passe et qui sont très bien. Et là, on va faire le 21, justement. On va faire la présentation d'un vinyle, d'un nouveau disque de Coutin. Et, qui est composé de 3 vinyles. À laquelle il y a 3 pochettes faites par des artistes différents. Un c'est moi, un autre c'est Di Rosa et un autre c'est Shelton. Et il va y avoir une exposition avec des sérigraphies et des choses comme ça et la présentation du goût chez au point éphémère dans lequel j'ai fait quand même une exposition avant et autre chose. Hein, maintenant oui. Je dois dire que c'est presque ma 2e maison.
Alors, vous travaillez donc sur les pochettes de disques au tout début. Comment est-ce que vous êtes passé justement de l'illustration d'un vinyle à vos premières bandes dessinées?
Non, mais ça, c'est toute une histoire. Je dessine les pochettes de disques pour la BD. Dans le sens que moi, à un moment, je cherchais, j'étais jeune, je cherchais un scénariste pour faire des essais de BD. C'était vraiment 73, 74. Et j'ai rencontré par hasard quelqu'un que je ne voyais pas d'avant ans. Mais vraiment, on s'est reconnu quand même. Et j'ai parlé de qu'est-ce que j'avais envie moi. Il dit, j'ai un ami qui peut faire ça. Et cet ami, il est venu. Et il est venu avec sa copine, qui était en train d'enregistrer un disque à la RCA, justement.
D'accord.
Elle a vu mes dessins et il m'a demandé si je voulais faire la pochette pour elle, sans me promettre rien, parce que c'était pas à elle de choisir. Et moi, j'ai fait 2 ou 3 dessins. On l'a amené à la RCA, ils ont pris un dessin et ils m'ont proposé si je voulais continuer à travailler pour eux. C'est comme ça, c'est grâce à la BD que j'ai commencé à faire la musique.
Alors, vous avez travaillé pour plusieurs magazines italiens un peu underground à vos débuts, Imalé, Cannibale, Frigidaire, voilà, on est dans l'Italie de la fin des années 70, hein, donc c'est l'Italie des années de plomb, l'Italie des attentats, l'Italie de la mafia, de la lutte armée, des assassinats, des brigades rouges. C'est une époque extrêmement violente, hein, et la violence de l'actualité nourrit d'ailleurs vos histoires. Qu'est-ce qui vous fascine dans la violence?
C'est pas une question qui me fascine. C'est la violence, c'est quelque chose qui. Vu qu'on dit toujours que je suis très réaliste, je ne fais autre que dessiner qu'est-ce que je vois. Et à cette époque, il y en avait vraiment de choses à voir, même peut-être pas dans la même ampleur que dans Xerox, mais c'était quand même beaucoup de situations dessinées dans Xerox. Ils étaient quand même des choses que nous, on avait, moi et Tambourini, que c'est quand même le père de l'Anxerox.
Voilà, dire, Stefano Tambourini, le scénariste, le créateur des personnages et de l'histoire.
En sortant d'un Rome et dans les bus, on se retrouvait vraiment dans des situations qu'on a mis sur la bande dessinée, en l'exagérant un peu, mais pas beaucoup, hein. Sincèrement, c'était presque, il y a pas mal de choses qui ont été prises dans la vie courante qui ont passé à cette époque.
Alors, Anxerox, premier épisode publié en 78, dans le numéro 0 de Cannibale, puis en France, dans le numéro 75 de la revue L'Écho des Savanes au printemps 81. Anxerox, c'est ce qu'on appelle un cyborg. Il a un nom de photocopieuse. Hein. Alors, non, pourquoi?
C'est un nom de photocopieuse parce qu'il s'était construit avec des pièces de... Comment on dit?
De photocopieurs. De photocopieurs. Voilà,
fait par un Studelinkon, ça s'appelait. C'est quelqu'un qui doit se procurer. Il était recherché par la police, alors il a construit ce robot pour se procurer à manger, la drogue, les filles, tout. Et c'est sorti cette cyborg qui pouvait être contrôlée dans l'agressivité, qui malheureusement, moment, il a tout à foiré et il est devenu, qu'est-ce qu'il est devenu? Il était juste quelqu'un de très violent, mais succube, succube, on
succube,
dit ça,
succube,
succube de la petite.
Oui, Nana. Parce que celle qui commande, c'est Lubna.
C'est Lubna, c'est une petite fille de 13 ans.
De 13 ans. Bon, alors quand ils couchent ensemble quand même, hein, faut aujourd'hui, serait impossible de sortir un tel album.
Ouais, je crois qu'à
l'époque, comment ça a été reçu? Parce qu'on a du mal à voir avec le regard d'aujourd'hui.
Ouais. À l'époque, justement, il y avait peut-être une mentalité, une morale différente. Les gens, ils étaient pas aussi malsains qu'aujourd'hui, je dois dire. Parce que moi, on a eu beaucoup de reproches sur l'anxiété, sur la violence, sur la drogue, sur le sexe. Mais jamais, jamais sur la pédophilie. Jamais. Mais parce qu'en plus, elle, c'était, oui, c'est vrai qu'elle disait que c'était 13 ans. C'était la méchante de l'album du personnage, c'est elle.
Oui, mais c'est pas Anxerox. Voilà, mais c'est vrai. Mais l'idée, c'était quand même pour vous de bousculer les tabous. C'était de choquer par le sexe, par la violence.
Ouais, c'était un peu plus que choquer, c'était pour rire. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça. C'est le sexe, c'était quelque chose de courant. La violence, nous, on le vivait tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on faisait nous? C'était vraiment pas. Tu vois, il y a un moment que lui casse la main de la petite fille qui donne la rose. Nous, on vivait ça tous les jours avec la petite fille qui existait vraiment, à laquelle nous on donnait de l'argent, on cassait pas la main. Mais on prenait pas la preuve parce qu'il arrivait avec une chose déjà quand même, hein, et c'était tous les jours, à tous les moments. C'est déjà les commentaires qu'il y a dans la BD, c'est exactement les commentaires que les gens pensaient à l'époque dans le restaurant. Mais c'est vrai que c'était pour rire, et ça, on l'a fait pour rire. Après, il est devenu quelque chose qui a bouleversé un peu le
Qui a pris une ampleur absolument incroyable.
On s'attendait pas, mais qui c'était bien, hein.
En cours de route, vous êtes passé du noir et blanc à la couleur?
Non, Noir et Blanc, c'était au début, c'était justement celle-là qui est sortie dans le numéro 0 de Cannibal. C'était dessiné, on avait fait le crayonné, moi et un autre dessinateur ami, qui on était tous dans Cannibal. Et après, elle était ancrée par Tamburini. Fini Cannibal, et on a fait Frigidaire, qui c'était un magazine quand même beaucoup plus coloré, plus patiné. Alors, Tamburini a demandé si je voulais le dessiner moi-même tout. J'ai dit non au début et je l'ai fait après, comme toutes les choses. Je dis toujours non, moi. Après, je fais tout. Et j'ai commencé, et ça a commencé comme ça. Cocaine decisions. You are a person with a snow job. You got a fancy, gotta go job. We're the cocaine decision that you make today. We'll mean a million somewhere.
Cocaine Decisions, Frank Zappa en 1983 dans VMDN sur RFI. On continue d'explorer l'œuvre de notre invité, Tanino Liberator, et votre discothèque un petit peu en même temps, parce que Frank Zappa, vous le connaissez aussi, ouais. Puisque cette chanson-là, elle est extraite de l'album The Man from Utopia, dont vous signez une nouvelle fois la pochette, avec des codes graphiques largement inspirés, c'est le moins qu'on puisse dire, par le personnage de Ranks.
Oui, mais c'est qu'est-ce qu'il a voulu, Frank Zappa, parce que lui, une fois qu'il a connu mon travail, il a voulu nous rencontrer et après il m'a proposé de faire un Frank Xerox. Justement, alors j'ai fait ça et c'est très bien passé. J'ai rencontré quelqu'un qui j'adorais. Quand je l'ai rencontré, c'était encore. Tu te rends compte que c'est quand même des mecs qui sont un peu au-dessus de la norme.
Oui, au-dessus de l'eau. Ouais.
De l'eau, oui.
Mais alors, justement, parlons un petit peu graphiquement, parce qu'on a évoqué le personnage de Rank Xerox tout à l'heure, sa création avec vous, mais graphiquement parlant, comment est-ce que vous l'avez imaginé? Comment est-ce que vous l'avez dessiné? Vous êtes parti de quoi? Vous n'êtes pas parti d'une vieille photocopieuse qui traînait dans le coin, ça n'a rien à voir.
Non, quoi que, t'as voulu, j'utilisais beaucoup la photocopieuse à l'époque, même pour faire des histoires, pas Rank Xerox, mais des autres choses. Ça s'appelait Snake Agent, c'était un personnage qui allait à 300 à l'heure, alors il faisait des anciens BD des années 50 américaines qui lui retouchaient à la photocopieuse en le bougeant et obtenaient tous des effets quand même pas mal. Et bon, écoutez, c'est une chose, Rank Xerox, ça a commencé avec Rank Xerox. La technique, ou la façon de le faire, l'image comme on le connaît, ça n'existait pas avant. J'avais jamais fait ni la technique que j'utilisais pour Rank Xerox, je l'ai inventé avec Rank Xerox.
Alors c'est quoi cette technique?
C'est une technique un peu haute. Disons que je suis parti des feutres qui utilisait un copain, Andrea Pacienza, qui est en Italie, c'est quand même quelqu'un de très très connu, même s'il est mort ça fait longtemps. Et lui, il avait commencé à utiliser les feutres pour dessiner, mais à plat, disons des à plat, et sur un papier, c'était le Fabriano qui absorbait beaucoup. Moi, j'ai pris la même chose, mais c'était un hasard, hein, c'était une chose comme ça qui est sortie pratiquement comme ça. Il n'y avait pas des calculs ou des choses faites pour voir, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils allaient donner. Alors j'ai pris des feutres, j'ai mélangé tout, des différents feutres. Il y avait les Pantone comme base sur un papier allemand qui s'appelle le Scholler, qui met du temps à sécher et qui me donne la possibilité de faire les ombres avec les doigts.
D'accord.
Et alors j'allais avec des feutres finis, des feutres, c'était tout un peu mélangé, il fallait aller. Alors je croyais d'avoir trouvé une technique qui allait vite, mais à la fin c'était pas tout ça, c'était beaucoup de travail, mais c'est vrai que c'était nouvelle, personne l'avait fait avant. Et au début, pour les incarner, les choses comme ça, j'utilisais même du crayon pour maquillage.
Alors, voilà, donc vraiment toutes les techniques, tous les outils.
Oui, c'était, et en plus, c'était vraiment la première, parce qu'avant, j'avais fait que des BD à noir et blanc. Rank Xerox, c'était la première en couleur, et avec Rank Xerox, j'ai commencé à utiliser cette technique qu'après, j'ai peaufiné dans le temps. Et déjà, le deuxième album, c'était fait 100% en feutre. Et comme ça, aussi, les illustrations, bon, ça a duré longtemps, jusqu'à un moment qui, il m'a empêché d'aller en avant. Il m'a fait même arrêter presque de dessiner parce que j'aimais plus qu'est-ce que j'obtenais. J'arrivais pas à obtenir vraiment qu'est-ce que je voulais. Et ça m'a un peu freiné.
Alors, parmi les fans absolus de Ranks, il y a Alain Chabat, hein, qui va vous interviewer un jour pour une radio française. Une amitié va naître. Et c'est lui qui, après la mort de Stefano, va reprendre le scénario pour le tome 3, hein, en partie. Ouais. Alain Chabat, donc acteur, scénariste, réalisateur aussi. Vous allez travailler avec lui sur son film, sur l'adaptation d'Astérix et Obélix contre Cléopâtre.
Mission Cléopâtre.
Mission
oui.
Cléopâtre. Vous allez signer les costumes. Hein, de ce film en collaboration avec Philippe Guillotel et Florence Sadone. Vous êtes d'ailleurs récompensés tous les trois par le César des meilleurs costumes.
Vous avez vu.
Chapeau. Alors, expliquez-nous comment vous avez procédé. Vous n'êtes pas parti des dessins du Derzo aussi?
Alors, non, bon, un peu oui pour certaines choses, mais pas vraiment parce qu'il avait. Moi, j'ai fait les dessins de Cléopâtre et les dessins des Romains, de César et les pirates surtout. Je sais pas vraiment. Il y avait les personnages de Derzo, mais là on pouvait être libre, spécialement sur Cléopâtre. Bon, faut dire qu'avec Alain Chabat, une fois que je l'ai connu comme journaliste, et je l'ai rencontré après quand il est arrivé en France à Canal Plus, parce que entre temps j'étais devenu copain d'un ancien. Comment dire, deux qui sont allés à l'école ensemble.
Copain de classe, camarade de classe. Oui.
Ouais, qui m'a présenté et on est devenu vraiment copains. Et Une fois que je suis rentré, revenu en France, je suis resté 10 ans dans ce bureau. Il m'a donné la place dans ce bureau au début, parce que j'avais besoin, et après parce que j'étais bien. Alors disons que c'est comme ça, et on est resté vraiment copains. J'ai suivi tout pendant les nuls, tout, et après.
Oui, mais alors Astérix et Obélix, on se dit qu'on est très très loin de votre univers quand même.
Pas vraiment, parce que si on va analyser les choses, c'est que, bon, je parle pas de l'aspect de contenu. Mais de l'aspect graphique, pas vraiment, parce que on connaissait pas vraiment les vêtements de Cléopâtre, alors j'ai pu aller en liberté. En effet, j'ai fait des choses dans la réalité, ils pouvaient jamais mettre. Et pour les pirates, c'est un peu la même chose. Je suis allé un peu dans l'impossible. C'est juste dans les choses romaines que je suis resté un peu dans la...
Oui, parce que là, effectivement, c'est déjà dans l'imaginaire collectif des spectateurs du film.
Ouais, c'était un peu ça. Mais quand même, il y en a une qui était un peu entre le mélange des romains et de Star Wars. Et c'était libre, quand même. Moi, il m'a choisi parce qu'à un moment, il y a eu un problème, justement, avec d'incompréhension avec l'autre, comment il s'appelle, costumiste. Guillotel, qui après s'est révélé vraiment très fantastique. Moi, on est resté copain, il était vraiment très fort. C'est grâce à lui que j'ai pu le dessiner, parce que lui, il rendait possible qu'est-ce que j'ai dessiné, moi. Et il m'a appelé un jour, Alain, il dit, est-ce que tu voulais pas essayer de faire le costume? J'ai dit, ah, pourquoi pas? Alors j'ai commencé, ça allait bien, et bon, ça continuait comme ça, et c'est terminé là, parce qu'après, j'ai eu plus aucune commande.
Voilà, on sait jamais, ça va peut-être revenir.
Non, je suis pas trop attiré par le cinéma.
Par le cinéma. Bon, alors, revenons à la BD, alors. Oui, okay. Alors, pour le coup, Tanino Liberator. On parlait du Derzo à l'instant, mais quels sont les grands dessinateurs de bande dessinée qui vous ont inspiré?
Inspiré, je crois pas. Disons que, moi, j'ai été frappé, au premier regard, quand il y a eu, Métal hurlant, les premières Métal hurlant, il y avait Druyer, il y avait Mébius, c'est avec des couleurs que j'avais jamais vues, et ça, sincèrement, je suis resté comme ça quand j'ai vu les premières Arzak, c'était quand même époustouflant. Oh, il y avait la couverture de Philippe Druyer, de Métal hurlant, qui était historique, c'est quelque chose d'exceptionnel, je suis resté vraiment comme ça, et ça, il m'avait donné, il a frappé même tous les gens qu'on a fait Cannibale et Frigidaire en Italie. Et c'était quand même quelque chose. Métal hurlant, ça a été un changement complet de la BD. C'est une autre histoire. Et c'est ça qui m'a frappé, mais parce que j'étais vraiment pas inspiré, juste frappé. Et c'est encore plus important. Et c'est un peu ça. Bon, après, comme dans la musique, j'écoute tout et je regarde tout. Et quand je dessine, peut-être qu'il y a des choses qui ressortent.
Mais sans forcément que vous vous en rendiez compte vous-même, quoi.
Justement. Non, mais heureusement. Parce que sinon, c'est de la copie qui sincèrement, ça ne donne pas de plaisir.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec le dessinateur Tanino Liberator à l'occasion de l'exposition que lui consacre la galerie Barbier et Maton à Paris à partir de vendredi et jusqu'au 15 juin. Alors ces crayonnés, ces croquis qui sont exposés précisément à la galerie, ce sont des inédits?
Oui, pas mal ils sont inédits. C'est pas vraiment des croquis. Il y a quelques croquis, mais la majeure part c'est des dessins finis. Disons, au crayon, mais c'est des dessins finis.
Mais comment vous les avez choisis, alors, ces dessins? Parce que faire une exposition dans un cadre limité après toutes vos années de carrière, c'est pas facile de choisir, quand même. Comment vous avez procédé?
Disons que ça fait partie un peu de la collection de la galerie Barbier Maton, parce que c'est des dessins qui sont été achetés un peu dans le temps. Et certains, on l'a mis ensemble d'une façon qui a un discours homogène. Et je sais pas, il y a des choses, c'est des filles. Moi, j'en ai fait beaucoup.
Et, ah oui.
Et c'est un peu différent. C'est la façon de le représenter, ça peut être un...
Alors l'affiche, par exemple, hein, l'affiche de l'exposition qui se trouve aussi d'ailleurs sur la couverture du livre. Est-ce que vous pouvez déjà nous la décrire, parce qu'on est à la radio, donc on la voit pas. À quoi ressemble-t-elle cette femme et dans quelle position vous l'avez mise?
Je sais pas. C'est une fille qui a des problèmes avec la bouche, quoi.
Oui. Elle a les doigts devant la bouche. Alors on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Hein, ou ouais. On peut imaginer. Je pense que ouais. Chacun, d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi la force de votre dessin, c'est-à-dire que l'œil de chacun peut imaginer et peut raconter aussi sa propre histoire à partir de votre crayon.
J'espère qu'il soit comme ça. C'est qu'est-ce qui se passe avec la musique? Moi, j'ai toujours dit que la musique, c'est la vraie seule art qui existe, parce qu'il donne la possibilité à 10 milliards de personnes d'avoir une image à lui seul. Déjà, le dessin, il te donne quelque chose, une voix, il te limite. Et moi, j'aime bien, quand je dessine, je fais pas des traités ni de psychologie, ni de comment il s'appelle, les mots, ils viennent pas. Sociologie.
Je dessine ni psychologie,
pour mon plaisir,
ni sociologie.
Pour sortir, qu'est-ce que j'ai au moment. Après, c'est aux autres de trouver quelque chose. J'aime bien quand quelqu'un, il fait une disquisition sans dessin, que moi, j'avais même pas pensé, mais qui, dans la réalité, ça peut être bien plausible. Et j'adore ça. Mais c'est pas moi qui va le dire. Je préfère que ce soit les autres qui analysent mon dessin,
bon,
pas moi.
Pas vous. Donc, je vais pas creuser davantage comment vous l'avez,
Non, comme je l'ai
vous l'avez décidé.
J'ai pensé à une femme, j'ai pensé à quelque chose de très
sexuel. Elle a un nom, cette
Non. C'était cette
femme.
Parce que ça, c'est les croquis vraiment faits sur le carnet. Très vite. Et c'est comme un céréal, un peu. Et j'ai cherché quelque chose, après j'ai fait toute une chose différente, justement, pour obtenir du sensuel, sans faire du porno. Sans faire de l'explicite.
Oui.
Quelque chose qui évoque un peu le sexe, sans que le sexe soit présent, au moins, qu'il soit pas.
Donc il faut être dans la suggestion, quoi. Il faut susciter une forme de désir sans montrer trop.
Voilà. C'est ça. Et j'ai commencé à dessiner, à trouver comme ça. Et je crois qu'à la fin, j'ai pas du tout fait ce dessin, j'ai fait un autre. Parce que peut-être que j'étais pas convaincu quand je l'ai fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui aimaient bien ce dessin.
Oui, ben c'est, je vous confirme. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Alors, des
mais
femmes.
Ça, sincèrement, je suis content, hein. Même, je le fais pour ça, hein. Parce que les gens l'apprécient.
Alors les femmes, justement, on va en venir aux femmes. Les femmes, oui. Il y en a quelques-unes dans ces 29 poèmes des Fleurs du Mal de Baudelaire que vous avez illustrés, que l'on peut admirer dans un album grand format, toujours chez Glénat. Et parmi les poèmes, parmi ces 29 poèmes, j'ai choisi Le Serpent qui danse.
Je me vois, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroitée à la peau. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux, où rien ne se révèle, de doux ni d'amère, sont deux bijoux froids où se mêlent l'or avec le fer. Te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand ta salive exquise monte au bord de tes dents. Je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur.
Cette émission est une rediffusion. Le Serpent qui danse de Baudelaire, extrait des Fleurs du Mal, lu ici par le comédien québécois Yvon Jean. Et vous avez devant les yeux, Tanino Liberator, l'illustration que vous en avez tirée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé? Vous avez écouté le poème dans son ensemble et ensuite vous avez dessiné, vous êtes parti des mots, des vers, c'est une impression d'ensemble de quoi?
Oui, c'est un peu tout ça, hein, parce que des fois j'ai fait des dessins même par rapport au titre. Après j'ai lu. Et j'ai vu que ça correspondait un peu à ce que je voyais voir. Alors là, disons, il y a le serpent, c'est quand même quelque chose qui nous agace dès qu'on est petit, avec Ève,
la pomme,
il y a le serpent, il y a
le péché,
il y a la femme, il y a tout. Il fallait donner un peu toute cette sensation un peu de volupté et de mouvement. comme ça. Et alors, vu que c'était quand même une transposition moderne de qu'est-ce qu'il avait écrit Baudelaire, fallait que je trouve quelque chose qui soit de nos jours et qui donne un peu l'idée de tout ça. Et après que j'ai quand même dessiné pas mal de choses, j'ai trouvé la chose qui, à première vue, c'est la plus simple, mais je crois que c'est celle-là qui accueille le plus. Qu'est-ce qu'il dit aussi, le poème?
Oui, même méthode pour illustrer Apollinaire et son texte Les 11 000 verves.
Ça, c'était un peu différent, parce que c'était déjà tout écrit. C'était un peu très différent de Baudelaire, parce que Baudelaire, c'était vraiment à déchiffrer, plus à rendre à moi. Là, c'était vraiment des dessins vraiment illustrant une histoire qui existait, qui j'ai pas touché. C'était tellement violent que quand j'ai accepté sans que je connaissais vraiment. Et quand je l'ai lu la première fois, bon, on m'a dit que je suis un dessinateur de violence, etc. Mais ça, il m'a vraiment frappé.
Ah, même vous êtes dit, oulala, il va
loin. Non, à un moment, j'étais, carrément, il me faisait, j'étais des réactions un peu, j'ai dit, merde, comment c'est possible? Parce qu'il y a des choses horribles dedans. Mais tout le temps.
Oui, mais alors justement, mais là, vous êtes plus dans l'érotisme. Là, vous êtes dans la pornographie, quand même.
Ou
de Liberator.
Quand
vous dessinez Apollinaire et les 11 000 verges.
Oui.
Là, on est dans l'explicite.
Là, c'est très explicite, mais si vous avez vu les illustrations, j'ai dû faire vraiment des prouesses techniques pour pas être, justement,
Vous avez un petit peu édulcoré. Vous avez.
Beaucoup moins
de vous êtes auto-censuré, alors.
Non, je ne suis pas auto-censuré. Oui, c'était un bouquin et qui, à nos jours, il n'aurait jamais sorti. Au moins, il l'aurait mis en prison, vu qu'il parle quand même des enfants de 10 ans, un enfant de 7 mois, qui a été quand même sévicié par son père, par l'autre. C'est des choses horribles. Et chaque fois qu'il y a un implexe, quelque chose de sexuel, ça termine toujours plus qu'avec du sang qu'avec du sperme. Alors, c'est vraiment quelque chose de très dur. Et aujourd'hui, c'est considéré une œuvre d'art.
Voilà, oui, on peut trouver le livre et l'album sous cellophane, avec une petite étiquette réservée à un public averti. Une dernière chose.
C'est ça que je ne sais pas, excusez-moi, ça je le demande à vous. Et le bouquin d'Apollinaire, est-ce qu'il, lui aussi, il est sous cellophane?
Oh, je pense. Il faudrait vérifier, on va vérifier. C'est une très bonne question, effectivement. Une dernière chose, parce que le 12 juin prochain, Glénat réédite Lucie, l'album, écrit avec Patrick Dorbert, avec une postface du paléontologue Yves Coppens. Donc, ouais. Lucie, l'australopithèque, notre grand-mère à tous, comme on dit.
Elle n'est plus.
Ça, c'est quand même un cas à part, parce que vous avez travaillé à l'ordinateur, vous avez travaillé au numérique. Pourquoi?
Non, bon, j'ai fait ça. C'était une chose que j'ai été toujours attiré par notre histoire, d'où on vient, etc. Et quand j'ai fait Lucie, au début, là aussi, j'avais dit absolument pas. Et après, je l'ai fait. Mais là aussi, un peu comme Rancelox, j'avais cette histoire de nouvelles techniques. Que cette fois-ci, c'était l'ordinateur. Il fallait que je trouve une façon pour faire cette chose, parce que je voulais faire vraiment réalistique pour rendre vraiment l'idée, parce que sinon, ça serait sorti.
Voilà, donc c'est drôle, parce que c'est la modernité totale pour raconter l'une des histoires les plus vieilles du monde.
Exactement.
C'est ça qui est.
Et en plus, c'était la chose incroyable, c'était que Lucy, il parle de passer dans les quatre pattes à la chose
comme bipède, marcher debout,
marcher debout. Et moi, je suis parti au dessinateur comme ça, avec la tête comme ça, un peu, c'est la même chose. J'ai soulevé ma tête, comme eux, ils ont soulevé des pattes.
Merci.
Alors, c'était un peu ça.
Voilà, ça sort le 12 juin prochain chez Glénat. Merci beaucoup, Tanino Liberator. L'exposition à la galerie Barbier et Maton à Paris, ouverte au public à partir de ce vendredi et jusqu'au 15 juin.
Merci à vous.
Le désir, l'amour et la pitié, le sexe et le plaisir.
La Discorde, Louis Arlette sur RFI, un extrait de son second album, Des ruines et des poèmes. Bonjour Alain Pilot.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François, buongiorno, Tanino Liberator.
Bonjour.
Un premier disque pour Louis Arlette, début 2018, Sourire carnivore, où il nous montrait ces choses qu'il avait apprises. Et sur celui-ci,
Louis Arlette nous propose cette fois ce qu'il a déniché comme...
J'ai trouvé effectivement deux trois choses intéressantes entre le premier album où j'ai pu faire un petit peu toutes les erreurs possibles, je crois, rencontrer tous les écueils, alors que ce soit au niveau de la création. Le premier album, je l'avais vraiment fait tout seul du début jusqu'à la fin, et j'en ai beaucoup souffert. Ça a été un grand vide une fois que ce disque a été terminé. Celui-ci, j'ai appris à réserver la part de solitude nécessaire, et puis ensuite à prendre de la distance. J'ai appris à m'entourer, à savoir m'entourer. Ça a été très précieux. Ça m'a permis de je crois, au final, faire un disque plus personnel.
C'est gênant ce que vous me dites, parce que en même temps, moi, lorsque je vous ai reçu pour le premier album, je vous ai dit que l'album me plaisait, et c'était vrai. Là, vous me parlez d'erreur. En fin de compte, vous l'assumez ou vous le reniez, ce disque?
J'ai dit le mot erreur?
Oui.
Ah oui.
J'ai fait quelques erreurs, oui, on pourra réécouter, il me semble que vous allez dire.
Ah oui, d'accord. Eh bien, au tout début, oui, alors je parlais d'erreurs, mais je parlais pas d'erreurs artistiques. Là, je te parlais plutôt des erreurs d'organisation, les erreurs dans la façon de concevoir un disque. Voilà. Oui, c'était quand je parlais effectivement des écueils, etc., que j'ai pu rencontrer. Mais ça, c'est oui, c'était des soucis liés à l'organisation, le fait d'être tout seul du début à la fin. Je pense que oui, c'était une erreur dans le sens où ça m'a créé une souffrance qui n'était pas forcément nécessaire. J'aurais pas pu faire des ruines et des poèmes si j'avais pas fait Sourire Carnivore.
Je méritais cette couronne. Tu vas me traîner sur le sable. Et bientôt froid comme un lézard, je vais devenir une fable. Il ne restera de mon règne rien que des ruines et des poèmes.
C'est le titre qui donne son nom à l'album, Des ruines et des poèmes, Louis Arlette, sur ce nouvel opus qui n'est pas cher, CA, mais où Glas et Tocsin résonnent notamment, des sons bien sûr qui ne laissent pas indifférent Louis Arlette.
Ah, ce sont deux tonalités très différentes, mais encore une fois, l'univers de la guerre est proche, très présent dans ce disque, et les relations humaines parfois nous obligent à livrer des espèces de combats sans merci, j'ai l'impression. Et on a parfois l'impression de toucher le bout, de toucher le bout et de toucher le fond avec les autres. Et à plusieurs moments dans ma vie, j'ai eu ce sentiment-là d'avoir atteint la fin d'une relation, le bout d'une relation, quand cette espèce de tocsin, comme tu dis et comme je le disais dans ce morceau, jamais, hein, je crois. Quand on l'entend, voilà, on sait qu'il faut se séparer, sinon il peut y avoir des envies de meurtre qui émergent.
Et si tu ne commanderas jamais, ici tu n'auras jamais de pouvoir, ne me parle plus jamais de succès, et ne me parle plus jamais de gloire.
Jamais Louis Arlette, un passage de son long format dans lequel il s'accapare à merveille un titre peu connu de Brel, Je suis un soir d'été. Cet inconditionnel de Proust a donc décidé de réunir ses nouvelles chansons, je vous le rappelle, sous l'intitulé de Des ruines et des poèmes.
Et à ce propos, Louis Arlette avoue que le poète portugais Fernando Pessoa fut un grand inspirateur de son écriture.
Pessoa a inspiré beaucoup de morceaux dans le livre. La carence, par exemple.
Dans le livre?
Dans le livre, quel lapsus. Ouais. Dans le disque. Dans le disque. Mais c'est vrai que je le pense un petit peu comme un livre quelque part. Faudrait peut-être que j'y réfléchisse. Mais dans le livre de l'intranquillité, voilà, il a inspiré plusieurs morceaux. Et dans La Carence notamment, c'est lui qui m'a donné cette image d'épave vomie par la marée.
Merci infiniment, Louis Arlette, de nous avoir présenté ce disque Des ruines et des poèmes qui donnera suite donc à un livre.
Merci Alain, à très vite.
La ville est une carence, la mauvaise paresse, la ville est une présence.
La carence, Louis Arlette, l'album c'est, je vous le rappelle, Des ruines et des poèmes, sous le label Le Bruit Blanc Différente. Merci Alain. Dans un instant, l'info sur RFI, et vous m'en direz des nouvelles.